19h-20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Oui, avec Frédéric Becbédé, ça c'est déjà pas mal, mais en plus, si on est avec Jean-Marie Roire pendant une heure, c'est du luxe. Bonsoir Jean-Marie Roire. Vous avez fêté il y a peu de temps vos 80 ans, vous ne les fêtes vraiment pas.
Je vous remercie de le révéler, alors que personne ne peut y croire.
Non, c'est vrai, il y a des gens qui ne vieillissent pas, c'est Bernard-Henri Lévy et vous, voilà. Je ne sais pas ce que vous avez fait, un pacte avec le diable, qu'est-ce qui s'est passé?
Bien, je crois que le secret de ne pas vieillir, c'est de rester fixé sur l'adolescence.
Ah ben oui.
J'ai eu la chance d'être lié, mes meilleurs amis étaient des adolescents. C'était Jean d'Ormesson, c'était oui. Philippe Tesson. Oui. Et ensemble, vraiment, nos conversations, c'était des conversations d'adolescents, parce qu'au fond, on n'était jamais devenus des adultes. Et on avait peut-être même horreur des adultes, c'est-à-dire des gens qui croient avoir réussi, qui croient être arrivés, qui croient que la vie est finie.
Oui. Mais alors, est-ce que ça n'est pas ça un écrivain? Un écrivain, c'est quelqu'un qui reste un peu enfantin, à vie, qui n'est jamais vraiment adulte, non?
Il reste adolescent et il réorchestre dans ses livres, au fond, ses rêves d'adolescence. Mmh. Et il reste marqué par ses lectures, parce que je crois que la période de l'adolescence, c'est la période de tous les rêves, et que ces rêves sont nourris par des lectures. Et moi, je dois dire, je lis pas mal, mais le moment de l'adolescence, je me coinfrais de livres, parce que je cherchais, disons, une sorte d'horoscope de ma vie, à travers les personnages de romans.
C'est une parfaite introduction à votre dernier livre, qui est un beau livre. D'abord, il est beau pour de vrai, c'est-à-dire qu'il a des qualités, mais en plus, c'est ce qu'on appelle un beau livre, puisque c'est un livre avec beaucoup d'images, de peintures de votre père, Augustin Roire, et un texte que vous lui avez consacré, et ça s'intitule donc « Entre père et fils » de Jean-Marie Roire, et c'est chez Gallimard. C'est un hommage que vous vouliez lui rendre, mais c'est quelque chose que vous aviez déjà fait, parce que dans « Une jeunesse à l'ombre de la lumière », en l'an 2000, vous parliez déjà de votre père, de sa peinture, et c'est comme un post-scriptum, je dirais, ce beau livre.
Tout à fait. Mais disons, autant dans « Une jeunesse à l'ombre de la lumière », il y avait un aspect sentimental, c'est-à-dire c'était le père de mes relations avec lui. Et ici, j'ai essayé de dégager, d'avoir un jugement beaucoup plus serein, c'est-à-dire l'artiste. Voilà, c'est ça. Parce que, étrangement, ce père n'était pas vraiment un père, c'est-à-dire qu'il n'avait pas du tout les qualités. Et d'ailleurs, c'est de cela dont j'ai un peu souffert, je le raconte dans au moment de l'adolescence. Vous savez, on a envie de s'affronter à son père pendant l'adolescence. Freud en a beaucoup parlé. Et je ne pouvais pas m'affronter à mon père parce qu'il n'existait pas comme père. Il existait comme artiste, profondément. Mais ce n'était pas un homme du concret. Et j'ai eu très tôt le sentiment bien bizarre d'être le père de mon père.
Oui. Alors,
ce qui fait que par la suite, j'ai recherché des pères. Et que je viens d'évoquer, Jean d'Ormesson, mais qui n'étaient pas des pères, qui étaient des grands frères. Ce qui fait que j'ai été frustré de père, mais en même temps, ce père m'a apporté quelque chose d'irremplaçable, c'est-à-dire la passion de l'art, l'art sous toutes ses formes, parce que j'étais dans une famille où il y avait énormément de peintres, de grands peintres, alliés à des peintres fameux, et il y avait un ébéniste fameux, qui était Jacob Desmalter, bref, un musicien, voilà.
Votre famille est liée à Paul Valéry, à Manet, à Berthe Morisot, dans l'arbre généalogique, qui d'ailleurs est à la fin du livre, on peut voir l'illustre qualité de cette famille, mais qui en même temps est un peu écrasante. D'ailleurs, vous n'avez jamais voulu peindre, du coup, vous êtes directement devenu écrivain pour éviter d'être comparé.
Mais je n'ai jamais été écrasé pour une bonne raison. C'est que j'ai toujours considéré, et d'ailleurs tous les membres de ma famille le considéraient, qu'on n'existait que par soi-même, par ce qu'on fait. Moi, je suis pour la méritocratie. Mmh. Et c'est une chance d'avoir été dans une famille archi-artistique parce que ça m'a donné ce goût merveilleux de l'art, qui est un contrepoison à la médiocrité de la vie, à sa vulgarité. Et puis j'avais cette chose merveilleuse, c'était des conversations. Vous imaginez les conversations que j'avais avec ma tante Julie, qui avait eu comme tuteur Mallarmé et ensuite Renoir. C'était formidable, c'était merveilleux. Et donc, ça m'a donné une idée de la bourgeoisie à la fois élégante, extraordinairement raffinée et très cultivée.
Et fauché, hein, on va en parler après, parce que voilà. C'était quand même une petite souffrance d'être dans des très belles maisons, mais avec pas tellement d'argent.
Oui, mais ça, c'est ma particularité dans cette famille, c'est que mon père était complètement fauché, était complètement ruiné, il n'avait pas un rond, donc nous avions des fins de mois difficiles, c'était une période de vache enragée. Et c'est vrai que j'en ai souffert. J'en ai souffert parce que je me suis dit, il ne maîtrise pas sa vie et il ne fait pas ce que devrait faire un père. C'est d'abord gagner de l'argent. Voilà. Et donc ça, c'est vrai, j'en ai souffert, d'autant plus que c'est très bizarre. C'est pas la pauvreté comme on l'a dans le milieu ouvrier ou paysan. C'est la pauvreté à l'intérieur de la bourgeoisie. C'est-à-dire les déclassés.
Le déclassement.
Et c'est pour ça que j'ai eu cet attrait vers Drieu-La Rochelle qui avait parfaitement parlé de cette question, la rêveuse bourgeoisie, des bourgeois déclassés, qui sont, parce qu'ils ont des nécessités bourgeoises, si vous voulez, quand ils font leur première communion, il faut le costume d'étonne, des tas de choses, il faut un blazer ou des tas de choses idiotes, mais si vous voulez, ils ne peuvent pas, voilà. Et donc c'est assez dur, c'est assez particulier, et c'est ce qui a fait certainement que mon père, devant cette carence de mon père devant la vie, moi, j'ai voulu prendre ma vie en main, corps. Et peut-être j'en ai fait trop, parce que j'étais peut-être trop peu investi dans l'engagement social.
On va en parler. Votre premier choix musical, c'est Albinoni, l'Adagio, par l'Académie Saint Martin in the Fields, et dirigé par Sir Neville Mariner. Nous avons un producteur très érudit ici sur Radio Classique qui s'appelle Philippe Gault, qui m'affirme que l'Adagio d'Albinoni est en fait composé en 1958 par le musicologue italien Remo Giazzotto à partir de fragments d'une œuvre d'Albinoni.
Voilà. Bien sûr, mais ça, moi je ne suis pas très érudit.
Et vous le saviez quand même.
Mais je le savais même qu'il avait retrouvé la partition. C'était un spécialiste d'Albinoni, il avait retrouvé la partition dans les ruines de Dresde, à la Libération. Ah oui. Donc, c'est absolument formidable, je trouve ça inouï. Vous savez, moi, je ne crois pas beaucoup au hasard. Je crois que cet homme qui fouillait dans les ruines, dans la bibliothèque de Dresde, et qui retrouve cette partition de l'homme qu'il adorait, vous savez, ça me fait penser à ce que disait Paul-Jean Toulet. Il disait « Tout n'est que signe, masque et symbole, et peut-être qu'un jour, nous saurons de quoi ». Eh bien, à travers Albinoni, et même à travers ma vie, c'est une question que je me pose très souvent.
Nous sommes toujours donc avec Jean-Marie Roir pour parler d'Augustin Roir, entre père et fils, chez Gallimard. La première phrase est assez intéressante de ce petit livre. Et je pense que c'est pas un petit livre. Je pense que parfois, les petits livres sont les plus importants d'une vie. Et cette phrase, c'est « Je suis né brutalement dans la féerie ». En quelques mots, vous résumez cette famille, au fond.
Oui, mais c'est vraiment, c'est pas seulement une image, c'est pas seulement un effet de style, c'est la vérité. C'est-à-dire que quand j'avais un an et demi, eh bien, je m'éveillais, c'est mes premiers souvenirs de la vie, et je voyais un homme au visage crispé, un crayon à la main, qui était en train de faire mon portrait. Oui. Donc ça a été vraiment quelque chose qui m'a profondément marqué. C'est vraiment, je suis
Ou
né...
Ou même, il vous foutait une lampe de poche dans la figure.
Mais oui, pour pouvoir faire mon portrait.
Pendant que vous dormiez.
Et d'ailleurs, il a fait une énorme moment de portrait, moi.
Oui, parce que qui sont dans le livre, qui sont très beaux, qui sont très émouvants.
Et parce que c'est très difficile pour un peintre, c'est tout ce qui bouge. Or, les enfants bougent tout le temps. Donc, le meilleur moyen de pouvoir les saisir, c'est pendant qu'ils dorment.
Pendant qu'ils dorment, ou alors il faut les tuer. C'est au choix. Vous êtes né pendant la guerre, donc je vais arrêter de dire votre âge, mais vous en parlez dans le livre. Et vous en avez des souvenirs? Vous avez des souvenirs des bombardements à Paris pendant la guerre?
Oui, j'ai plusieurs souvenirs de bombardements, notamment dans l'appartement où nous habitions, boulevard du Montparnasse. Eh bien, il y avait les sirènes qui retentissaient. Mmh. Et ce climat d'angoisse terrible qui faisait que tout... Les locataires de l'immeuble descendaient dans la cave ou descendaient à la station de métro et on attendait le bombardement. Et puis, au bout d'une demi-heure, une heure, deux heures, subitement, d'autres sirènes annonçaient la fin de la... Et il y avait une sorte de soulagement extraordinaire. Vous voyez, je devais avoir 2 ans, 3 ans. Mais l'émotion, cette angoisse, puis la fin de l'angoisse, cette espèce de résurrection de tous ces gens qui étaient accablés, ça m'a profondément marqué.
Mmh. Alors, toute l'histoire de votre enfance est racontée dans ce livre. Après la guerre, vous publiez dans le livre des lettres absolument magnifiques que votre père vous adressait, dans lesquelles il vous dessinait. Il faisait de vous un personnage de bande dessinée, un petit ourson. Ces lettres vraiment sont fabuleuses. Je dois dire, j'aurais aimé en recevoir des lettres comme ça. Mais en même temps, ce père très aimant, on s'aperçoit qu'il se sent très coupable. Et s'il envoie tellement de lettres si belles à son fils Jean-Marie, c'est aussi parce qu'il l'a confié à des voisins de Noirmoutier, Jeanne et Japonais d'amour, pendant 4 ans, en 1947. C'est pas très aimant de faire ça. Je veux dire, vous avez un fils, vous lui écrivez des lettres merveilleuses, mais vous le confiez à des voisins pendant 4 ans, et là, vous vous lavez à l'eau glacée du puits, vous vous chauffez avec une brique dans le lit. Moi, je trouve qu'il y a un côté très, très... Enfin, pour un enfant gâté comme moi, je trouve que c'est une enfance terrible.
Eh bien, nous ne sommes pas pareils. Parce que moi, c'est vrai que quand on me racontait l'histoire du petit poussé, j'ai l'impression que c'était moi. Mes parents
pire que ça, poil de carotte.
Abandonné pour des raisons, à mon avis, médicales. Je n'ai jamais cherché la raison, parce que moi, j'ai toujours vu les événements sans chercher à comprendre ce qui arrivait. Je me disais, de façon... je sentis toujours une protection des anges. Et c'était le cas. Parce que, en effet, je suis resté 4 ans loin de mes parents, avec les pêcheurs de Noirmoutier. Et ils m'adoraient, et je les adorais. Et ce que vous évoquez, l'eau froide, les bougies...
La bouillotte.
La bouillotte. Mais c'était merveilleux. Mais c'est vraiment quelque chose... Vous savez, très souvent, quand j'ai fait des voyages en Grèce, chez l'habitant, j'étais dans un même dénuement, et j'adorais ça. Parce qu'il y avait la beauté des paysages, et il y avait l'amour. L'amour de ces gens qui étaient merveilleux. Et puis ça me changeait de l'impressionnisme, du tableau.
Oui. Enfin, vous aviez quel âge?
J'avais 4 ans.
Entre
4 et 8 ans, oui.
Entre 4 et 8 ans, vos parents vous laissent tomber. Et vous trouvez ça très bien.
Mais
je suis désolé. Non,
parce que je sentais
l'amour. Vous êtes le seul écrivain en France qui ne refuse de se victimiser.
Oui. Oui, parce que moi, je trouve que... J'adore ce que disait Manet, c'était sa devise, il disait « tout arrive ». Et moi, je trouve que la vie est merveilleuse. Et tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je ne veux pas faire le pédant en citant Leibniz, mais bien que, comme j'ai eu tellement de mal avant mon bac, je peux me permettre d'être pédant.
C'est une émission de pédanterie absolue, vous pouvez y aller.
Et Leibniz disait, quand il vous arrive un échec, souvent il vous arrive quelque chose de beaucoup mieux. Eh bien, j'ai remarqué dans ma vie, à chaque fois que j'ai des échecs, finalement, après, j'ai eu de bonnes nouvelles.
Oui.
Donc, non, je trouve la vie quelque chose de merveilleux, parce que c'est plein de rencontres. Et ça, cette rencontre avec les pêcheurs de Lormoutier, c'est quelque chose d'irremplaçable.
Bon, j'arriverai pas à vous faire pleurnicher, tant pis. Mais c'est vrai qu'il y a dans ce livre, puisque c'est un livre où on rencontre la peinture de votre père et votre texte à vous, il y a une sorte de choc, de contraste, de schizophrénie presque, entre l'émerveillement de ces tableaux, qui sont vraiment d'une pureté, d'une beauté absolue, enfin, très très... Voilà, d'un père qui dessine, qui peint son fils, et en même temps, il y a une tristesse derrière. Moi, je sentis quand même une mélancolie derrière.
Bien sûr, mais ça, c'était la tristesse de mon père. Mon père était, en cela, très différent de moi. C'était un homme angoissé, un homme mal dans sa peau, et qui avait une quête d'absolu absolument terrible. Donc, une quête d'absolu qui ne rencontrait pas le public. D'une part, parce que ce n'était pas son caractère de chercher la reconnaissance du public, de faire des expositions. La première grande exposition, c'est moi qui lui ai organisé.
Quand il avait 80 ans.
Oui, quand il avait 80 ans. Mais c'est ce que j'aimais chez lui.
C'est votre âge aujourd'hui, d'ailleurs.
Oui, voilà. Oui, curieusement. Mais ce que j'aimais chez lui, justement, c'est cette pureté. C'était un janséniste. Un janséniste. Et il avait ce caractère... inspiré d'ailleurs d'un ami de ma famille qui était Degas, et inspiré de Ingres, c'est-à-dire une conception vraiment de la un peu
très
masochiste
exigeante, oui.
De la littérature. Alors que moi, je suis beaucoup plus jésuite.
Voilà. Mais est-ce que est-ce qu'il était maniaco-dépressif? Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui on dirait bipolaire ou...
Oui, c'était un homme dépressif et qui n'avait pas dans son art ce qui est nécessaire. Et c'est ce que j'ai essayé moi de trouver, c'est-à-dire accepter les souffrances de l'art, qui sont toujours très grandes, parce que c'est, on met tout dans le fait d'écrire, dans le fait de peindre, mais il n'avait pas les reconnaissances, disons, les dividendes narcissiques, puisqu'il exposait très peu, il était marginal, et puis vous vous rendez compte, il était peintre dans une famille où il n'y avait que des peintres.
Oui, c'est pas assez.
Et en plus, il arrivait dans une très mauvaise période, parce que c'était un peintre
figuratif
qui était inspiré il s'inspirait de Dürer et d'Holbein, et il était dans la période de l'abstrait. Donc, il avait toutes les raisons d'être méconnu.
Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, il s'est bien rattrapé. Enfin, je veux dire, il n'est plus là, hélas. Mais enfin, il est exposé au Petit Palais, par exemple. Et moi, sa peinture, elle me fait penser un peu à David Hockney.
Ouais.
Je trouve que ses couleurs bleues, quand il y a l'enfant qui dort, quand il y a un nageur dans la mer, Ça fait penser à ce que fait aujourd'hui David Hockney.
Oui, beaucoup de gens me disent ça, parlent de sa modernité, alors que c'était un homme qui était vraiment, je ne dis pas passéiste, mais enfin, il était pour lui, le temps ne passait pas.
Il était peut-être trop en avance sur le retour au figuratif, vous voyez, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, Hockney, c'est un des peintres les plus riches du monde.
Ouais. Mais il continuait cette tradition, parce que c'est un homme passionné par l'Égypte ancienne, par la Grèce, par toutes les formes d'art. Et je pense qu'il cherchait une forme de vérité par la beauté.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un moment je vous embête avec votre âge, mais est-ce qu'il y a un moment où on revoit son enfance, vous voyez, à passer un certain âge? Pourquoi est-ce qu'on ressent ce besoin de retourner à sa petite enfance? Parce que finalement, vous avez... Voilà, ce livre, c'est cette démarche-là, de retrouver des souvenirs très...
Non, c'est plutôt une opération... Vous savez, j'ai toujours détesté l'injustice sous toutes ses formes, et c'est pour ça que quand j'ai dirigé des journaux littéraires, j'essayais de rendre justice à des écrivains qui avaient été maltraités, et puis j'ai essayé de rendre justice aussi à des innocents injustement condamnés,
comme
Mohamed Haddad. Et avec mon père, c'est la même chose. Je me suis beaucoup consacré
moi, à, je ne dis pas ma carrière, parce que je crois qu'en matière de littéraire, il n'y a pas de carrière. On essaie, on a une espèce de destin voilà, qu'on essaie de suivre. Et puis, en fonction des circonstances, on a plus ou moins de chance. Moi, j'ai été très protégé. Voilà, j'ai été très protégé. J'ai des anges gardiens merveilleux. Et donc, je me suis dit, j'ai eu de la chance. Mon père n'avait pas eu cette chance. Donc, j'ai voulu... Mais ce n'est pas tellement affectif. C'est parce que je trouve que son art le mérite.
Objectivement,
voilà,
oui.
Et, voilà, et quand je vois que... J'étais soutenu par Pierre Rosenberg, par Louis-Antoine de Prat, par tous les grands, Adrien Goetz, tous les grands connaisseurs de l'art, qui m'ont dit, mais il faut défendre votre père, parce que c'est vraiment un grand peintre.
Et je reviens sur le livre Entre père et fils, donc ce livre chez Gallimard que vous venez de publier, parce que c'est la rencontre des images de votre père et de votre texte, en fait un objet assez original, je veux dire, parce que j'ai pas connaissance d'un objet littéraire similaire. C'est si vous voulez un peu comme si on rencontrait à la fois le petit prince de Saint-Exupéry avec un petit bourgeois de nourricier. Vous voyez, avec ce récit d'enfance, dans une famille un peu conventionnelle, même si elle l'était pas, hein, vous venez de nous le dire. Mais le projet vous a échappé, à mon avis. Il est plus important, ce livre, que vous ne le croyez.
Non. Je crois que tous mes livres sont importants et qu'aucun n'est important. Non, mais vous savez, je crois que ce qu'il y a d'original, évidemment, c'est le fait que mon père soit peintre et que moi, je sois écrivain. C'est-à-dire, c'est la rencontre des deux. Et comment est-ce que, ayant été vécu dans une sorte de, on peut dire, d'intoxication, de merveilleuse intoxication de la peinture, puisque, vous savez, à la maison, on ne trouvait jamais de pommes, de poires, de bananes. Tout était réquisitionné pour faire
des tableaux.
Pour faire des tableaux des natures mortes. Ensuite, quand on allait à la campagne chez ma tante Julie, donc tous les peintres se précipitaient pour faire notre portrait. C'était vraiment une intoxication. Les conversations à table, passaient son temps à raconter des anecdotes sur Degas, sur Renoir, sur Gauguin. Et le samedi, mon père me disait, tu as été sage. Je vais t'emmener au Louvre. Je dis, ah non, pas le Louvre.
Pitié, pitié. Et ce qui est triste aussi, c'est que votre père, Augustin Roire, est mort 2 jours avant votre entrée à l'Académie française.
Mais non, pourquoi triste? Mais non, parce que lui était en deux. Vous savez, et c'est l'avantage, peut-être, de cette famille, qui avait été tellement liée à l'impressionnisme, c'est de ne pas tenir compte du succès. On savait très bien que le succès, c'est bidon. Parce qu'ils avaient
connu... Vous pensez que c'est bidon. Pourtant, vous avez couru après certains honneurs.
J'ai couru après le succès, tout en sachant que c'était bidon. Oui. Vous savez ce que j'ai dit le jour où j'ai été élu à l'Académie, à la cinquième reprise, comme pour le bac. On m'a dit, alors vous êtes heureux? J'ai dit, non, je suis inquiet. On m'a dit, mais pourquoi êtes-vous inquiet? Je suis inquiet, j'ai eu 16 voix de plus que Balzac. Donc j'ai replacé les choses.
Oui, il faut toujours replacer les choses. Alors, le deuxième choix de Jean-Marie Roire, musicalement parlant, c'est l'Ave Maria de Giulio Caccini, chanté par Nina Solonikova en 2015. Je crois que Jean-Marie Roire est un peu amoureux d'elle. Une fois de plus, Philippe Gau intervient, le producteur, pour me dire que là aussi, c'est une supercherie. Car ce Caccini, un compositeur baroque du XVIe siècle, en réalité n'a pas du tout composé cet Ave Maria, puisqu'il a été composé en 1970, par un Russe, Vladimir Vavilov. Et c'est très éloigné des compositions de Caccini. Je ne sais pas pourquoi Philippe, aujourd'hui, a envie de mettre son grain de sel sur chaque choix de Jean-Marie Roire.
Ben, je vais vous dire quelque chose, je m'en fiche complètement.
Ben, voilà.
Parce que je trouve ça magnifique.
Oui.
Et en plus, cette femme qui est russe, est sa voix est magnifique. En plus, elle est très belle.
Nina Solonikova.
Je suis plus amoureux de sa voix, parce que je ne la connais pas.
Oui.
Et puis, j'ai voulu montrer que en ce moment, les Russes n'ont pas bonne presse.
Oui.
Eh bien, moi, je me fous qu'ils n'aient pas bonne presse parce que je trouve que la culture russe est tellement sensationnelle. Il ne faut pas confondre la politique et en même temps, cette culture russe absolument littéralement sublime.
Et la musique et le cinéma russe également. Voilà. Oui, vous avez raison. Une page de réclame et on se retrouve juste après ça.
Quand on est pro, il faut être partout. Sur la route, sur les chantiers, avec les clients, avec la compta. On n'a pas une minute à soi.
Dans votre agenda de star, vous n'auriez pas un moment pour venir chez Nissan essayer le nouveau Townstar EV ? Le fourgon compact 100% électrique ? La meilleure autonomie de sa catégorie et le meilleur prix du marché, c'est chez Nissan.
Nissan.
Townstar EV Ascenta L1, chargeur 11 kW, catégorie camionnette de place électrique. Au 1er juin, 31 700 euros hors taxes et jusqu'à 320 km en cycle mixte WLTP.
Vivre les émotions des chefs-d'œuvre classiques. Percer les secrets des grandes œuvres. La captivante série pédagogique, vous trouvez ça classique ? Se poursuit à l'Auditorium de la scène musicale. Découvrez le 3 juin l'apprenti sorcier de Paul Dukas qui a inspiré Fantasia, le chef-d'œuvre de Walt Disney. Vous trouvez ça classique ? Sur lascenemusicale.com.
Découvrez le premier récital de Simon Burki. Le jeune prodige du piano interprète les plus belles pages de Rachmaninov, Liszt, Tchaïkovski, Schumann, Scriabine. Réminiscence de Simon Burki. Un album aparté.
Sidi d'Arturo Pérez Reverte. La véritable histoire du Cid luttant pour sa survie dans l'Espagne hostile du Moyen-Âge. Découvrez l'homme de chair et de sang derrière la légende. Chef de guerre sans roi ni patrie, formidable meneur d'hommes au sens de l'honneur inébranlable. Un roman épique et magistral au cœur de l'histoire. Sidi d'Arturo Pérez Reverte aux éditions du Seuil. Disponible en librairie.
Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Eh bien, nous sommes toujours avec Jean-Marie Roire dans le salon chinois chez La Pérouse, où vous avez fêté, me disiez-vous, votre prix Renaudot. C'était en quelle année ?
En 83.
83,
oui. Ça ne me rajeunit pas. Encore, vous trouvez un moyen de ne pas me rajeunir.
Vous savez, mais nous n'aurons pas d'autres détails sur cette fête de 83. Car ce qui se passe chez La Pérouse reste chez La Pérouse. Jean-Marie Roire, on a un petit jeu dans cette émission qui, je dirais maintenant, est mondialement célèbre. Devine tes citations. C'est pour savoir si mon invité est atteint de la maladie d'Alzheimer.
Donc, ou s'il a écrit ses propres livres.
D'abord, vérifier s'il a écrit ses propres livres et s'il se souvient dans quel livre il a dit ceci. Alors là, c'est un personnage d'un de vos livres qui dresse une liste de tout ce qu'il déteste. La médiocrité, ma famille, les chemises en nylon, les dimanches après-midi, les gens qui parlent fort, ceux qui se coupent les ongles dans l'autobus.
Alors, ça, je m'en souviens, parce que c'est mon premier roman.
Et
vous
oui.
savez, premier roman, j'ai tellement eu de mal à le faire éditer, puisque mon premier livre, quand j'avais 20 ans, a été refusé par 13 éditeurs, et celui-là, 10 ans plus tard, a été accepté.
Et c'était La Fuite en Pologne.
C'était La Fuite en Pologne.
Fuite en Pologne en 1974. Donc, en gros, pour ceux qui écoutent depuis le début de l'émission, Jean-Marie Roire a galéré pour avoir son bac, il a galéré pour entrer à l'Académie, mais il a aussi galéré pour être publié.
Oui.
Mais votre vie est un enfer.
Mais alors, le premier roman m'a été refusé, mais heureusement, parce qu'il était complètement nul. Donc, quand on a pris, 10 ans plus tard, La Fuite en Pologne, là, je ne dis pas que c'était publiable et c'était, je crois, pas trop mauvais.
Mais pour tout écrivain, le moment où il est publié est un grand jour, c'est vrai.
Donc c'est merveilleux. Et même, après le premier roman. Oui. Moi, à chaque fois que je suis publié, que je vois un livre qui sort, j'ai un moment de vraiment, je me pince parce que je me dis, mais c'est tellement extraordinaire. J'ai tellement rêvé de publier, de faire partie de cette chevalerie des écrivains. Et c'était pas tellement, contrairement à ce qu'on peut penser, d'entrer à l'Académie française. Je pensais même pas, moi, je ne sais pas. Et c'était simplement à partir de cette chevalerie, à n'importe quelle place. Je voulais pas être le premier. Vous savez, il y a beaucoup d'écrivains qui se disent, ah, si je suis pas le premier, je n'écrirai plus. Non, je m'en fichais complètement, je m'en fiche toujours. Ce qui m'importait, c'est de participer à cette grande aventure de l'esprit à travers les livres et à travers le roman.
Alors, dans cette phrase que je viens de citer, vous faisiez une liste de tout ce que, enfin, tout le personnage déteste, hein. Je voulais savoir si 50 ans après, c'était toujours le cas. Est-ce que, par exemple, vous dites, ma famille, vous détestez pas votre famille?
Non, mais c'est un personnage de roman. Oui, vous avez bien la différence entre un personnage de roman. Bon. J'ai d'ailleurs, je vous signale que le jeune homme se suicide à la fin.
Oui,
donc je ne serai pas là pour en parler.
Vous êtes toujours là. Vous avez été tenté par le suicide et vous lui avez consacré un de vos plus beaux livres qui s'intitulait « Ils ont choisi la nuit » en 1985. Où vous passiez en revue tous les grands écrivains qui ont mis fin à leur jour. Donc Romain Gary, Stefan Zweig, Ernest Hemingway, Jack London, Pierre Drieux-La Rochelle. Et pourquoi vous étiez fasciné par ces auteurs qui mettent fin à leur jour?
Parce que j'ai failli les rejoindre et que j'ai eu une période difficile de l'adolescence. Mais quel est l'adolescent qui n'a pas de période difficile? C'était dur et puis c'était dans une famille avec tout ce que je vous ai dit de déclassement, de pauvreté, de voilà. Et puis ma petite amie, je ratais mon bac, ma petite amie m'avait quitté. Oui, mon premier roman était refusé, vous voyez, donc il me restait plus grand chose.
Mais
vraiment maintenant, après avoir passé par cette étape, cette épreuve douloureuse, je me suis mis à adorer la vie. Et puis c'est vrai, ma rencontre avec Jean d'Ormesson, là il m'a vraiment, ça a été un professeur de vie. Il m'a appris à vivre et il a eu moins d'influence sur le plan littéraire que sur le plan de la vie.
Quoique, je trouve que vous avez quelque chose en commun qui est que vous êtes plus amusant dans la vie que dans vos livres. Ce n'est pas une critique, je pense que c'était un grand mélancolique. C'est un écrivain plus profond à l'écrit qu'à l'oral. Et vous aussi, vos livres, si on passe en revue les titres, je veux dire, « Nous ne savons pas aimer » en 2002, « Le goût du malheur » en 93, c'est souvent des livres sur la désillusion, sur des types qui sont malheureux dans l'existence. Et vos livres sont plus tristes que vous, en fait.
Oui, parce que ce sont ma vérité. Ces livres sont ma vérité, et ma vérité est plutôt triste, mélancolique, et je dirais romantique. Romantique, c'est désirer toujours quelque chose de plus, et c'est désirer que la vie soit plus belle, c'est désirer que les amis soient formidables, que les femmes ne vous quittent jamais, enfin voilà. C'est cette espèce de folie romantique qui est peut-être dans mon livre, et dans la vie, j'essaie de ne pas embêter les gens avec mes malheurs.
Oui, c'est une forme de, peut-être de dandisme, quoi.
De politesse.
Je continue le devine tes citations. Qui n'a pas exorcisé son passé est condamné à le revivre.
Voilà. J'ai dû le répéter dans pas mal de mes livres.
Elle est pas mal, autant la ressortir.
C'est pas mal, oui.
C'est dans Le goût du malheur, en 93. Une autre. J'aime ceux qui souffrent, les écorchés, les cœurs douloureux, ceux que leur sensibilité torture, ceux qui ont l'âme inquiète et l'ambition toujours déçue. Je hais les capitalistes du succès, les nouveaux riches de l'arrivisme, les carriéristes rassasiés.
Oui, ben ça, je crois que c'est encore ce livre sur le suicide.
Oui.
Voilà,
Ils ont choisi la nuit. 85.
Mais ça, j'ai pas changé.
c'est un peu paradoxal pour un académicien et quelqu'un qui, quand même, c'est pas que vous avez fait carrière, mais vous avez aimé peut-être, admiré l'aspect romanesque de.
Voilà, mais je vous jure, le jour où je suis entré à l'académie, mais vraiment là, je me pinçais parce que je me trouvais en face d'Henri Troyat, Lévi-Strauss, Jean d'Ormesson, Michel Néon, tous ces gens que j'avais connus à 20 ans et que j'avais admirés. J'aurais jamais pu imaginer que je les rejoindrais un jour. C'était très romanesque et c'était très amical. C'était très amical parce que j'ai toujours eu cette chance de mêler mon arrivisme à beaucoup d'amitié.
c'est bien dit. Alors, dernière citation. Et là, j'ai un reproche à vous faire. En plus des drogues les plus destructrices, il usait de la tequila, un alcool violent à base d'anis que l'on boit mêlé à du jus de citron avec une pincée de sel.
Alors ça, je dirais que ça doit être dans Les Feux du pouvoir.
Exact, ouais. En 1977.
Ça prouve que je suis pas complètement gâteux, d'ailleurs, je suis content.
Mais bravo, bravo, c'était un test. Alors pourquoi j'ai un reproche? Parce que la tequila n'est pas à base d'anis, mais d'agave. Comment osez-vous dire une chose pareille?
Alors là, ça m'étonne d'un écrivain comme vous, m'en dire ça.
Surtout buveur comme moi.
Vous savez très bien qu'un écrivain ne s'intéresse pas à l'exactitude, mais à la vérité.
Comment il s'en sort?
Un artiste, c'est cherche la vérité.
Oui, puis c'était une fiction.
Il s'en fout.
C'était un roman. Bon, je précise pour nos éditeurs, parce que nous avons un invité très malhonnête, que la tequila est bel et bien un alcool d'agave, c'est-à-dire un cactus mexicain. Mais vous êtes pardonné, car l'action de ce roman se déroulait à la Fonda Pepe, oui. Une auberge de Formentera, voilà. Au Baléares, que j'ai longtemps fréquenté. Alors j'aimerais parler aussi d'Avant-guerre, en 1983. C'est un roman qui débute au Pays Basque, ça se passe en 1933. Et pour écrire ce livre, donc c'est un livre, il y a quatre personnages, trois qui vont devenir des résistants et un qui va devenir un collabo. Et vous êtes inspiré de vrais personnages, d'Emmanuel Berle, d'Aragon, de Drieux, qui allaient au Pays Basque, ou pas du tout, j'ai rêvé.
Oui, et de Pucheux. Pucheux était originaire du Béarn. Non, mais c'est parce que j'ai passé un séjour chez un garçon qui avait un ami merveilleux qui s'appelait François de Lépée, qui avait une très belle maison. Et je me suis dit, mes personnages, je vais les mettre dans un lieu
j'ai
que
connu,
je connais,
François, oui.
qui est très, très beau, parce que c'est un pays que j'adore, le Pays Basque. Donc, voilà, vous savez, un écrivain souffre beaucoup, mais il cherche aussi à se faire plaisir. Oui. Donc, je faisais
donc,
plaisir
en décrivant
ces jeunes gens. Oui. Parce que ce livre est parti d'une idée, je me suis dit, que beaucoup de gens, une question que beaucoup de gens se posent, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais eu 20 ans en 1940? Voilà. Et j'essaie de décliner, et de le décliner parce que j'ai interrogé beaucoup de résistants sur cette époque, et même François Mitterrand, d'ailleurs, qui m'en a reparlé, d'ailleurs, par la suite. Et je suis vraiment, je trouve que la phrase de François Mitterrand qui dit « L'opposition n'est pas entre résistants et collabos, elle est entre ceux qui ont connu cette période et ceux qui ne l'ont pas connue. » C'est-à-dire le relativisme. Essayer de comprendre cette époque tellement complexe et pas faire les blancs, les noirs, non,
bien
si
sûr,
vous voulez.
Et puis, oui, il y a des accidents, il y a des hasards aussi.
Il y a des hasards.
Et c'est ça, ce livre.
Et les destins, je dirais, c'est pas les hasards, ce sont des destins.
En fait, la catastrophe de 1940 les entraîne dans des directions opposées, c'est tout. Voilà. Et alors, vous avez eu le prix Renaudot en 83 pour ce livre, donc vous avez eu l'Interallier puis le Renaudot, les meilleurs auteurs cumule ces deux récompenses, bien sûr, et je ne dis pas ça pour me vanter. Mon troisième choix, c'est moi qui l'ai fait, c'est pour s'amuser, parce que c'est quelqu'un de votre famille. C'est Ernest Chausson, un compositeur de la famille de Jean-Marie Roire, et c'est le deuxième mouvement de la Sicilienne.
Thank you.
Donc Ernest Chausson, c'était votre
grand-oncle. L'oncle de ma mère, mon grand-oncle.
Oui, grand-oncle.
Et sa fille, ce qui est très curieux, c'est que sa fille a été fiancée avec François Mauriac. Et François Mauriac a failli l'épouser, et elle l'a plaqué. Elle l'a plaqué, et François Mauriac a failli se suicider. Ça a été un drame dans sa vie. Donc, vous voyez, c'est encore un lien que ma famille aurait pu avoir avec un écrivain.
Avec un écrivain, oui. Alors, l'an dernier, vous avez surpris beaucoup de monde, dont moi, en publiant votre autobiographie sous le titre « Mes révoltes ». Et c'est un livre. Alors, vous revenez sur vos combats. Vous avez milité contre la prostitution.
Pas contre la prostitution.
Alors, nous sommes en désaccord sur ce point.
J'ai défendu les prostituées.
Oui.
J'ai défendu les prostituées parce que très longtemps j'ai milité avec l'association Jancel, avec l'association Captifs la Libération, mais pour la défense des prostituées. Et je me suis séparé de ces associations au moment où ça aboutit à une mesure que je trouve stupide, c'est la condamnation du client.
Finalement, nous sommes d'accord.
C'était un ensemble, et je crois que on n'a pas réfléchi à la situation des prostituées, qui sont dans une situation bien pire qu'avant cette loi.
Depuis cette loi de 2016. Je suis content. Et un autre de vos grands combats, ça a été la réhabilitation d'Omar Radad. Vous avez écrit en 1994 « Omar, la construction d'un coupable ». Je crois que vous avez été récemment très déçu parce qu'il y a eu une procédure qui était pour le gracier, en quelque sorte, et que ça n'a pas abouti.
Ça fait 30 ans que je suis déçu par la justice de mon pays, mais parce que c'est vraiment une chose monstrueuse. Et le jour où on révélera la vérité sur cette affaire, ça sera un scandale pour la justice et pour la France. Et maintenant, le dossier est entre les mains de la Cour européenne de justice. Voilà. Et un jour, on saura la vérité, parce que vous savez ce que disait Churchill. On peut cacher la vérité à quelques personnes pendant un certain temps. On ne peut pas la cacher à tout le monde, tout le temps.
Mmh. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur pour vous de vous intéresser à cette affaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a contacté?
Mais non, pas du tout. J'étais tranquillement en Corse, vraiment en train de me baigner, puis je lis un journal, et j'allais commencer un roman. J'ai eu cette affaire qui m'a... Parce que tout de suite, j'ai vu que c'était une histoire montée de toutes pièces. Mmh. Et 15 jours plus tard, quand il y a eu les résultats de l'autopsie, je me suis rendu compte, mais ils sont fous. Oui. Puisque l'autopsie prouve que Madame Marshall ne pouvait pas faire cette inscription, Omar m'a tué. Elle était dans un état, elle avait le foie perforé, deux traumatismes crâniens, donc ça ne tenait pas debout. Oui. Et ça fait 35 ans que ça dure.
Dans cette émission, il y a une autre rubrique, c'est les biographèmes. C'est-à-dire, vous savez, c'est un mot assez moche inventé par Roland Barthes pour décrire les détails, les goûts, les inflexions, les personnages des écrivains. Quel serait votre biographème à vous? Est-ce que c'est d'être un écrivain, un grand écrivain officiel, académicien, ou est-ce que c'est plutôt d'être quelqu'un de plus mélancolique qu'il n'en a l'air?
Non, vous savez. Déjà être un écrivain, c'est déjà pas mal.
j'ai trouvé chez Shakespeare et une compagnie des questions que j'aime bien. Alors je vous en pose trois. Quel est le pire livre que vous ayez jamais lu?
Et ça, je ne vous le dirai pas. Parce que pour moi, tous les livres expriment.
Facile.
Mais non, mais écoutez, vous posez la question.
Oui.
Je trouve que tous les livres expriment quelque chose, ils expriment une détresse, ils expriment une vérité.
Je suis pas d'accord, pas tous.
Quelquefois, il n'y a pas la qualité, mais il y a le fond. Vous savez, ce que j'aime, ce sont les intentions. Moi, dès que quelqu'un prend sa plume pour écrire, même s'il se trouve que ce n'est pas un très très bon livre, eh bien, moi, je suis vraiment, je pense à lui, je le plains, parce que je me dis non seulement il va être malheureux, parce qu'en plus, son livre ne sera peut-être pas publié, mais je pense en même temps à ce que j'ai souffert, moi, quand j'écrivais un mauvais livre. Donc, vous savez...
Bon, alors, vous n'avez jamais écrit un article négatif dans votre vie?
Jamais.
Pourtant...
Je n'ai écrit que des articles...
Au Figaro littéraire.
Mais jamais je n'ai écrit un...
Vous étiez le patron de Renaud Matignon, qui en faisait beaucoup.
Peut-être, mais les gens qui collaboraient avec moi, quelquefois, faisaient des articles négatifs. Mais moi-même, jamais je n'ai pris la plume
pour démolir quelqu'un. Alors, j'ai démoli des gens néfastes dans la vie réelle. Le malheureux Georges Kejman, Henri Leclerc, tous les gens qui ont attaqué Omar Radad. Oui, ça, c'est vrai. Alors là, je n'ai pas hésité. Mais les écrivains, je trouve les artistes, jamais je ne pourrais dire du mal d'un artiste.
Quelle est votre odeur préférée ?
Je crois que c'est l'odeur d'une femme aimée.
Oh. Quelle est la chose la plus bizarre que vous ayez jamais mangée ?
La chose la plus bizarre que j'ai jamais mangée, écoutez, j'attends. J'attends parce que pour l'instant, j'adore la bizarrerie et j'attends.
C'est un très beau livre, en tout cas, Augustin Roy, entre père et fils. Et j'ai noté que vous aviez, dans votre enfance, été tiraillé entre le Béarn, Oloron-Sainte-Marie, et Noirmoutier, en Bretagne. Donc, en quelque sorte, entre les montagnes des Pyrénées et l'océan Atlantique. Et donc, nous avons les mêmes paysages. Oui. Finalement, je ne savais pas que vous étiez béarnais.
Oui, par ma mère. Ah oui. Par ma mère, elle était d'origine espagnole, elle avait une maison dans Béarn. Mais, si vous voulez, ces deux pays, ben, c'est typique des familles bourgeoises, fauchées, qui ont des maisons partout, qui ont du mal à entretenir, ça fuit partout, il y a des réparations, surtout souvent dans la division, donc voilà. C'était, mais je dois dire, ces deux pays que j'ai adorés, à la fois le Béarn, et puis les ours dans la montagne, et puis les Pyrénées, grâce à ces pêcheurs que j'ai aussi beaucoup aimés.
Oui, la Bretagne, vous vouliez dire. Parce que les Pyrénées, les pêcheurs...
Non, bien sûr, là-bas. Je parlais de l'île de Noirmoutier.
En gros, toute votre œuvre, on peut la résumer en une question.
Oui, allez-y.
En une phrase.
Dites-moi.
En gros, vous dites qu'on devient romancier pour ne pas devenir fou.
En ce qui me concerne, c'est vrai. Je ne sais pas ce que je serais devenu si je n'avais pas écrit. Je crois que je serais devenu schizophrène. Et j'aurais été malheureux. Je ne sais pas si j'aurais pu vivre. Vous voyez, je vous ai dit où je plaçais mes livres. Hein. Ce qui m'importe, c'est de pouvoir écrire et d'écrire. La place que j'occuperai dans la postérité, c'est pas la question. Et c'est vrai que ça m'a sauvé la vie. La littérature m'a sauvé la vie. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que j'ai pu ne jamais travailler de ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu des occupations, que ce soit le journalisme ou écrire des livres. Je me suis jamais, jamais, jamais senti en train de travailler. J'avais l'impression qu'à chaque fois, c'était du plaisir. Et ça, c'est une chance, mais c'est quand même un travail.
C'est quand même un travail.
Mais alors, écoutez, vous répondez à ma place.
Non, mais je veux le dire. Je veux dire, enfin, c'est pas si facile de faire tous les livres que vous avez écrits. Le dernier choix musical de Jean-Marie Roy, c'est La colline des myrtilles, Blueberry Hill, de Fats Domino.
Found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill, when I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. My dream came true. The wind in the willow played love's sweet melody, but all of those vows you made were never to be.
Donc c'était Fats Domino. Pourquoi cette colline aux myrtilles ?
Ben, c'est lié à ma vie sentimentale. À un moment, j'étais amoureux d'une femme noire américaine qui était venue en France et elle chantait toujours cette chanson. Elle repassait le disque. Voilà. C'est lié à mon passé. Mais c'est vrai. Et puis, j'ai été voir Fats Domino. Je l'ai vu. J'ai été à un concert de Fats Domino. Et je dois dire, j'adorais. C'était de la musique, une musique que j'aime parce qu'elle est très mélodieuse. C'est pas le jazz qui est avec un rythme mélodieux.
Dans beaucoup de vos livres, On en a déjà parlé, mais le bonheur sentimental est impossible. Et vous, comment dire, c'est comme si vos personnages sacrifiaient leurs amours pour d'autres choses, pour je sais pas, la réussite sociale dans la blessure de Georges Asselot en 75, dans les feux du pouvoir aussi. Est-ce que ça a été votre cas ou pas du tout?
Mais l'amour est impossible parce que c'est l'amour. Et c'est quelque chose qui est, dans lequel on place tellement quelque chose de plus grand que soi. C'est la forme, l'amour est la forme de notre espérance, comme on l'a pu le dire, de Dieu. Et je pense que dans la mesure où il s'incarne dans un être humain, il y a forcément, tôt ou tard, un moment d'une légère petite désillusion. Et puis, vous savez, je prendrai une phrase de Romain Gary. Avec l'amour d'une mère, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Et moi, j'ai une mère merveilleuse, et c'est vrai que j'ai eu du mal à retrouver l'équivalent de cette mère, qui en plus ne m'a jamais quitté.
Merci infiniment Jean-Marie Roir d'avoir passé une heure en notre compagnie. Merci à toute l'équipe, le producteur Philippe Gau, Baptiste Dupin à la réalisation, sans oublier Francis Drezel pour la programmation musicale. Et lisez Augustin Roir entre père et fils de Jean-Marie Roir chez Gallimard ce week-end, tranquillement chez vous. Vous verrez de très beaux tableaux avec un texte émouvant. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Laure Maison pour le journal du classique. Et bien, je vous dis un excellent week-end à tous, mais surtout à toutes.